Claude Askolovitch, on parle d'un saint ce matin.
Que l'église catholique ne reconnaît pas, mais que l'on vénère à Culiacán, au nord-ouest du Mexique, où poussent le pavot et la marijuana et les cartels de la drogue. Et Saint Jésus Malverde, qui volait aux riches pour donner aux pauvres, est le saint patron des narcos et d'un petit peuple qui n'aime plus l'État ni sa corruption. Et dans la chapelle de Malverde, où les bandits viennent brûler des cierges, on peut aussi acheter l'icône profane d'un homme portant Kalachnikov, le Chapo Guzman, le plus célèbre des narcotrafiquants que l'on juge aux États-Unis. Du Nord. Comme je viens vénérer Malverde, d'autres placent leur foi dans le Chapo, dit la pieuse Mathilda au corsage rouge, tandis que dans les supermarchés, on entend des romances à la gloire du truand. Des pieds à la tête, il est de petite taille, mais de la tête aux cieux, il est grand parmi les grands. Et c'est dans le Figaro, un superbe reportage aux confins de la mort et de l'absurdité, où l'on visite au cimetière une crypte où reposent deux bambins de 4 ou 5 ans, enfants d'un baron de la drogue jeté du haut d'un pont par un cartel rival. Mais en dépit des cadavres, le mal fascine. Dans un pays où les valeurs sont inversées, corrompues par la culture de la drogue, le président Obrador veut la vaincre, cette culture, en faisant du social, mais il arrive bien tard, dans un monde abîmé. Parlant du Mexique, je vois dans le Guardian la photographie d'un homme et de sa fillette noyés dans le Rio Grande qu'ils avaient franchi la nage depuis le Mexique pour rejoindre l'Amérique. Le bras de Valeria, 23 mois, est encore enroulé autour du cou de son père Alberto. Et dans les journaux mexicains, on compare cette photo à celle du jeune Aylan sur une plage de Grèce qui, en 2015, avait un moment seulement, réveillé l'Europe. Dans AOC, analyse opinion critique sur Internet, je lis un beau texte malaisant de la journaliste Taina Tervonen pour le site Les Jours. Puis pour un livre au pays des disparus, elle était partie à la recherche des destins de passagers africains d'un chalutier qui avait coulé en 2015 avec 800 personnes à son bord. L'épave est installée à Venise, à la Biennale, c'est donc de l'art. La journaliste est assise en face de cette carcasse et a observé les passants, les curieux, les émus, les amoureux, les indifférents qui, chacun leur tour, photographient ce qui fut un tombeau.
En France aussi, on s'inquiète d'être infiltré.
Et l'Express affiche à sa une le président turc Erdogan qui infiltre la France et quadrille sa diaspora. Erdogan qui chez lui a perdu la mairie d'Istanbul, mais persécute encore ses opposants en justice, me dit Libération. Et chez nous en France, voulait ouvrir des lycées. Les peurs cousines ce matin, ce n'est pas la Turquie que vise la Provence, mais je cite l'islamisme radical qui infiltre la République. Le fondamentalisme islamique a pénétré tous les pans de la société, complète au journal Éric Diard. Député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, co-auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics, rapport qui, après le point, fait donc les unes du Figaro, de la Provence et de pages du Parisien. Mais ce rapport intrigue. Il livre des exemples que l'on garde à l'oreille, tels ce douanier qui ciblait spécifiquement les passagers juifs ou ces surveillants de la prison des Baumettes que l'on surnommait le gang des barbus. Mais en même temps, le rapport affirme ne traiter que d'un phénomène marginal, alors les journaux font leur choix. Le Monde salue un texte mesuré, mais le Figaro annonce un rapport choc et dénonce l'islam conquérant qui progresse de nos lâchetés. Joue-t-on de la peur ou de la raison? Éric Diard, le député qui parle beaucoup dans Le Parisien, dit qu'il faudrait pouvoir évoquer plus facilement les agents de l'État en voie de radicalisation, quitte à renier sur les droits de la défense. Il dit aussi, Éric Diard, dans La Provence cette fois, qu'en France, plus personne n'ose prendre une douche tout nu dans un vestiaire de foot. Et là, pardon, notre député s'égare de raccourci parce qu'on a lu samedi dernier, et on peut encore lire, c'est en ligne, un article génial de l'Équipe Magazine sur cette question du nu, des douches, du sport et des nouvelles pudeurs. Car oui, le temps est passé où l'on photographie au Cosmos de New York les bistouquettes de Pelé et Beckenbauer, mais dans nos pudibonderies, l'islam n'est qu'une composante. Ainsi, au rugby, ce sont des joueurs venus d'Océanie qui ont introduit au 15 la douche en caleçon. Nous infiltrent-ils les Tongiens? Nous pouvons avoir peur ou sourire, mais le mal existe bien. Le beau-frère d'un des assassins de Charlie Hebdo a été condamné hier à 9 ans de prison, Liège dans l'Ardennais. Mais à la une de ce journal, une autre peur m'attend. Un homme chargé de notre sécurité est en prison. Ce commandant estimé, responsable de la DGSI à Charleville-Mézières, devait déradicaliser des jeunes femmes mineures rattrapées sur le chemin du djihad en Syrie. Il s'est égaré dans sa mission, autorisant les jeunes femmes à pénétrer les locaux top secrets de la DGSI et leur donnant des informations confidentielles. Et l'on apprend ce matin, il aurait aussi violé une des jeunes apprenties djihadistes. Quitte à choisir nos peurs, celle du climat n'est pas la moins honorable ni la moins justifiée. Quand les Échos et Sud-Ouest me disent en une que la France n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques, le 1 drôlement se demande quel type d'écologistes sommes-nous et exhume le texte d'un poète américain Allen Ginsberg, beatnik conscient, qui jadis écrivait ceci. Feu, air, eau polluée, la bête c'est nous. Pensée sombre dans la nuit, rien à faire pour arrêter ça. Les gouvernements démentent. Il faut un président qui dénonce le démenti, un parti de la panique tranquille qui rétablisse l'équilibre de la nature. Alain, nous attendons.
Et on parle d'enfance, Claude, pour finir.
Et nous l'avons bien mérité avec ce chouette article d'Histoire du Monde qui rendra perplexe les inquiets de la modernité, où l'on apprend, c'est une exposition à Blois, que sous la Renaissance, petits garçons et petites filles aristocrates étaient vêtus à l'identique de robes et coiffes de dentelle, gender fluide donc, et ne se différenciaient qu'à partir de 7 ans, quand on donnait aux garçons une petite épée, un jouet. Allez, à propos de jouets, vous saurez aussi, chaque journal plie le genou, que Toy Story Opus 4 est dans nos cinémas, mention spéciale à Télérama, qui s'émeut de l'arrivée d'un nouveau personnage, un jouet nommé Fourchette, fabriqué à partir d'un rebut trouvé dans une poubelle par la petite fille, l'héroïne du film, Fourchette qui veut retourner Célepsie à sa poubelle. Recyclons.
Merci Claude pour cette revue de presse.